avril. Ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, à deux mois seulement du 1er juillet, plus de 350 ménages demandent déjà de l'aide pour se loger aux équipes des offices d'habitation de Montréal, Laval et Longueuil. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, selon les organismes communautaires. Le point avec Annie Guillemette.
Plus tôt cette semaine, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a imploré les citoyens à demander de l'aide.
Si on fait appel aux services d'aide, les gens vont être épaulés dans leurs recherches.
Mais pour Cédric Dussault, du regroupement des comités logements et associations de locataires, les gens font d'abord leurs recherches et frappent ensuite aux portes des organismes communautaires.
Ils sont encore en train de chercher un logement par leurs propres moyens, surtout.
Dans la métropole, 350 demandes d'aide ont déjà été transmises aux offices d'habitation. Parallèlement, plus de 17 000 ménages attendent déjà un logement en prime. Modique, un portrait qui annonce une journée de déménagement encore extrêmement difficile. Les évictions se multiplient et on ne construit pas.
On ne voit pas vraiment comment la situation pourrait être meilleure qu'elle l'a été à 1er juillet de l'an dernier.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, promet donc un soutien élargi. Se dit préoccupée devant la gravité de la situation.
Un toit, c'est un droit fondamental.
Annie Guillemette, pour Cogeco Nouvelles.
Geneviève Guilbeault persiste et signe tout en précisant sa pensée. L'État n'a pas la mission d'assumer les déficits des sociétés de transport en commun. La ministre des Transports essuie les critiques depuis sa déclaration à l'effet que le transport en commun n'était pas dans la mission de l'État. En entrevue à Montréal avec Paul Arcand, Geneviève Guilbeault a maintenu ses propos ce matin.
Mais soutenir le transport collectif, c'est la nuance que j'ai faite hier. Gérer les opérations des sociétés de transport, c'est pas une responsabilité de l'État. Et si je voulais me mêler de cette gestion-là, je suis certaine que les mêmes élus qui en ce moment disent que c'est mon travail, me diraient de pas m'en mêler.
La facture des rénovations à venir au stade du Parc olympique de Montréal sera beaucoup plus importante que prévu. Le Journal de Montréal écrit que les 870 millions de dollars annoncés en février dernier par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, n'incluaient pas la ventilation, l'éclairage et le son. Le prix annoncé ne comprenait donc pas les équipements qu'on retrouve dans l'anneau technique. La facture pourrait donc dépasser le milliard de dollars. Rappelons que c'est la firme Pomerleau et Canam qui est chargée d'installer ces éléments qui seront fixés à l'anneau d'ici 2027. Il y a également des projets adjacents, si on peut dire, qui devront être réalisés avant ou pendant la réfection du toit du stade. Parmi ceux-ci, on retrouve le remplacement des gradins. Maintenant, le marché des bornes publiques de recharge sera laissé au secteur privé à partir de 2030. C'est ce qu'a affirmé la responsable du circuit électrique d'Hydro-Québec, France Lampron, à Radio-Canada. Or, l'Association des distributeurs d'énergie du Québec comptant 2300 stations-service, stations d'essence, a laissé savoir que ses membres étaient prêts à prendre la relève. Alors, les prix risquent cependant d'augmenter. Aux 5500 bornes de recharge actuellement sur les routes du Québec doivent s'ajouter 2500 bornes rapides et 4500 bornes standard d'ici 2030. Et en ce début de week-end, à noter que dans les Laurentides, la route 117 Nord à Prévost, à des allures d'autoroute métropolitaine ces jours-ci, des travaux d'aménagement de trottoirs qui entraînent la fermeture d'une voie en direction nord causent un bouchon monstre à l'heure de pointe du retour à la maison. Cogeco Nouvelle a chronométré un temps de transport d'une heure entre Saint-Jérôme et Prévost hier en après-midi, un trajet qui prend normalement 17 minutes à peine. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Le samedi 25 mai dès 19h30, soirée de boxe construction Jolimont à l'Amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli. 14 combats de haut niveau, sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mettant en vedette des boxeurs du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Billets en vente à partir de 25$ sur ticketaccess.net ou sur le site de l'Académie de boxe BSL. Un événement présenté par l'Académie de boxe BSL de Rimouski en collaboration avec la Corporation des événements spéciaux de la ville de Mont-Joli et le Quality Inn de Mont-Joli.
Bouger sur Rimouski et l'Est du Québec. En direct sur l'événement, à la minute où ça se produit. Le choc des idées, des entrevues qui font avancer. Et surtout, votre opinion.
FM 93. Discutons, échangeons. Tous les sujets sont permis et approfondis. Voici l'effet Normando.
réseau Cogeco. Voici l'effet Normando avec Nathalie Normando.
Bonjour, je vous souhaite un excellent vendredi. Merci de vous joindre à nous pour notre 10 à midi. Êtes-vous bien assis ce matin? J'en ai une très, très bonne pour vous pour débuter cette émission. Deux écoles primaires de l'Outaouais ont pris la décision de bannir les bouteilles d'eau en métal sous prétexte que ces bouteilles sont de potentiels projectiles. Vous avez bien entendu, vous savez, ces bouteilles d'eau, j'en ai une moi-même en ce moment, les bouteilles d'eau en acier inoxydable, et qui sont formidables. Elles permettent de conserver l'eau fraîche très, très longtemps. C'est des bouteilles qui sont utilisées par nos jeunes primaires, secondaires. Alors, sous prétexte que ces bouteilles pourraient causer des blessures, on a décidé, dans deux écoles primaires de l'Outaouais, de les abolir. La question qui tue ce matin, en débutant cette émission, est-ce qu'on pousse trop fort sur le bouchon? Est-ce qu'on est rendu malade, fou, en fait? Est-ce qu'on pousse la prudence un peu trop loin que celle liée à l'interdiction des bouteilles d'eau en métal dans nos écoles? Ça va être super intéressant de vous entendre ou encore de vous lire sur le sujet. Je voyais ce matin RDI un pilote d'avion demander sa conjointe agente de bord en mariage alors qu'ils étaient en plein vol. C'était très beau, très romantique et ça nous a inspiré une question pour vous ce matin, en ce vendredi où on cherche des sujets plus positifs. De quelle façon votre conjoint ou votre conjointe vous a demandé en fiançailles ou en mariage? Si vous avez déjà eu l'occasion de vivre cet épisode extraordinaire dans votre vie, alors comment ça s'est passé pour vous de votre côté? Comme à tous les vendredis avec notre amie Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, on vous propose une discussion sur le deuil dans un couple. Comment avez-vous vécu le deuil de votre partenaire, souvent lié à la maladie, parfois un accident tragique? Enfin, comment on fait pour remonter la pente après le deuil de son conjoint ou de sa conjointe? Texto pour nous joindre, 98-98-5 et le courriel nathalie@98-5fm.ca. Potentiel projectile, les bouteilles en acier inoxydable bannies de deux écoles de l'Outaouais. C'est le titre d'un article paru dans le journal Le Droit ce matin, signé par Daniel Leblanc, un article fort intéressant. J'ai envie de vous dire, à la limite, décision inusitée. C'est la CNESST et le Centre de services scolaires des Draveurs qui ont pris cette décision. Suite à des cas de violence dans deux écoles primaires de ce centre de services scolaires, soit les écoles de la Colline et du Sommet. Et là, on s'est dit, une façon concrète de lutter contre la violence exprimée, qui s'exprime entre les enfants et les enseignants, on va abolir les bouteilles d'eau en métal sous prétexte que ces bouteilles peuvent représenter un danger pour les enfants et pour le personnel enseignant, le personnel de soutien scolaire. Est-ce qu'on pousse trop fort sur le bouchon? La question est posée. Notre premier invité est un ami de cette émission, Emilio Norcia, ex-directeur d'école. Bonjour Emilio, bon vendredi.
Bonjour Nathalie, ça va bien?
Très bien Emilio, merci. Votre réaction ce matin, je ne sais pas si elle ressemble à la mienne, mais on est tous stupéfaits par cette décision du côté de notre équipe ce matin.
Écoutez, j'ai reçu l'article rapidement, puis je l'ai lu en diagonale, puis là je me dis, par rapport à votre sujet, y a-t-il un pilote dans l'avion, dans les commissions, dans les centres de service et dans l'école? Là, on est en train là de faire peur à tout le monde, puis on se dit plutôt qu'est-ce qui se passe réellement là. On est en train de tout abolir, aussi bien d'abolir tous les objets dans les écoles, la raquette de badminton, l'exacto et ainsi de suite, parce que là, au lieu d'éduquer, on est en train de tout enlever pour justement éviter d'avoir peur. Fait qu'on gère la peur.
On gère la peur d'avoir peur. Les auditeurs réagissent en disant les crayons, ça peut causer des dommages également. Et vous l'avez dit, Emilio, une raquette de badminton. En fait, ce qu'on comprend en lisant l'article, c'est qu'il y a des cas de violence dans ces deux écoles, à un point tel que la CNESST est intervenue. Et par mesure de prévention, on dit on va abolir ces types de bouteilles. En passant, on fait la promotion des bouteilles en métal parce qu'on dit que c'est bon pour l'environnement. Hein? On achète une, ça dure pratiquement toute une vie. Vous qui avez été directeur d'école, Emilio, quel message, en fait, on envoie aux enfants, à la société, en prenant ce genre de décision?
Bon, on envoie nécessairement, on n'éduque pas, là, on fait plus de prévention, on fait juste dire attention, touche pas à ci, touche pas à ça, tu vas te brûler. Alors, au lieu de dire, expérimente, regarde, voici comment qu'on fait, lorsqu'un événement de violence, comment qu'on peut le gérer, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la raison, on est en train de complètement, là, comme on dit, faire fausse route, là. quand se rendre à l'école, là, comme j'ai toujours dit, c'est un lieu d'apprentissage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? S'il est arrivé un acte de violence, ben c'est de voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Là, on est rendu, là, Nathalie, je me répète, mais on a peur d'avoir peur, là.
Mmh. C'est triste quand même, hein? C'est comme si, en même temps, il y avait un aveu d'échec, Emilio, derrière.
Mais Nathalie, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Lorsqu'on fait des abolitions de situations comme ça, qu'est-ce qu'on crée? On crée de l'anxiété constamment et on fait des dommages collatéraux à la société. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des futurs adultes qui vont avoir peur de tout, qui vont, excusez-moi là si je m'emporte, qui vont arriver dans des milieux de travail, puis vont dire, ben non, ça, on peut pas faire ça. Ah, ben non, je peux pas toucher à ça. Ah, il y a un danger ici. Est-ce que je peux avoir une accommodation dans mon milieu de travail? Parce que moi, ça m'a perturbé quand j'étais jeune. Voyez-vous, là?
Mm. Oui, exact. C'est une espèce d'escalade. Là. C'est une espèce d'escalade. Ça crée une escalade des situations. En fait, à vouloir résoudre un problème lié à la violence, ce que vous dites, on en crée d'autres, exactement. Mais ça va être ma dernière question, Emilio. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'aveu d'échec d'une commission, d'un centre de service scolaire derrière cette décision? C'est-à-dire que la décision la plus facile, c'est d'abolir plutôt que de trouver des solutions pour régler le problème à la base, qui est celui de la violence. Puis je vous rappelle, on parle de violence dans des écoles primaires.
Alors moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir, s'il vous plaît, dans les centres de services scolaires, avant de prendre une réponse comme ça, avant de prendre une décision? Est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir? Est-ce qu'on peut analyser exactement qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que quand la CSST rentre dans un milieu de travail, c'est comme une usine, un champ de construction, là. Eux autres, ils arrivent et disent, c'est la sécurité avant tout. Oui, mais attention, ici, on fait face à des jeunes d'âge primaire, où on est là aussi pour les éduquer et faire de la prévention. Eux aussi ont un travail aussi à faire de prévention et d'éducation parce qu'ils tiennent compte que c'est un milieu primaire, un milieu d'éducation. C'est pas un chantier de construction, là.
On s'entend. Ah, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Donc, le milieu doit être, doit informer, éduquer, absolument tout à fait. Merci beaucoup, Emilio. Ça met la table pour ce sujet qui fait déjà beaucoup réagir. Excellente journée, Emilio. Au plaisir.
Merci, au plaisir. À la prochaine.
À la prochaine, Emilio Norcia, ex-directeur d'école. Si vous êtes enseignant, enseignante et vous êtes interpellé par le sujet, d'ailleurs, il y a un auditeur qui dit, moi, je comprends 100% la décision de la commission scolaire. Les élèves lancent énormément de projectiles en classe. Si vous souhaitez nous appeler pour nous parler de votre réalité, n'hésitez pas. 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Je peux vous dire, jusqu'à maintenant, vos réactions vont tous dans le même sens. On est rendu fou, Nathalie, parce qu'on peut tirer toutes sortes de choses. Un dictionnaire, une brocheuse. Enfin, vous voyez, oui, c'est ça. On est un peu dépassé, honnêtement, ce matin. On est un peu dépassé par ce genre de décision. On se dit, mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va se rendre? Il me semble que c'est excessif. Notre prochaine invitée est présidente du syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais, Kim Lafleur-Loriot. Je suis bien heureuse de lui parler ce matin. Bonjour, Mme Lafleur-Loriot.
Bonjour, Mme Normandeau.
Bienvenue à l'émission. Votre réaction en tant que présidente du syndicat du soutien scolaire, est-ce que vous cautionnez, vous déplorez?
Ben, sans cautionner ou déplorer, ce que j'aimerais dire, c'est que le centre de service, en l'occurrence dans l'article là, que l'on parle, c'est le centre de service des draveurs ici dans la région de l'Outaouais, mm-hmm. Ben, a agi selon une intervention de la CNSST. Donc, la raison, c'était que, ben, pour nous, le personnel de soutien, il y a des gestes de violence dans cette école-là, mais je peux vous dire que à travers les deux centres de services que l'on représente, ben, le haut taux de violence, là, envers le personnel, on le voit de plus en plus. Donc, l'employeur, le centre de service, a agi en conséquence des recommandations, mais je peux pas être en désaccord avec ce que vient de dire là votre invité auparavant, Monsieur Emilio. Là, donc, l'idée, c'est de travailler en prévention et non pas en interdiction. Donc, c'est un milieu d'enseignement, c'est un milieu là où les élèves, les étudiants doivent apprendre, et si on pose un geste, ne serait-ce que de lancer des projectiles ou peu importe là, le geste posé, ben il faut comprendre pourquoi on en est rendu là dans nos milieux. Puis nous, ben en tant que représentante du personnel de soutien, ben je représente énormément de corps d'emploi avec les collègues professionnels. Là, on est là pour ça, là, l'éducation, c'est-à-dire prévenir et guérir, qui est le slogan aussi de la CNSST. Mais c'est la même chose dans les milieux scolaires, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la cause pour trouver la solution. Puis de tout enlever, ben nous, on pense pas que c'est ça la solution dans le milieu, là, comme on a dit.
Est-il vrai que la